Vous écoutez, on lit pour vous.
Les invitations au programme de sélection des travailleurs qualifiés ne font pas que des heureux. Un texte de Lisa Marie Gervais paru le 6 décembre 2025 dans Le Devoir. Sur fond de protestation contre l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le gouvernement Legault vient de tendre la main à près de 2000 immigrants par l'entremise du programme de sélection des travailleurs qualifiés, désormais la seule voie possible vers la résidence permanente. Si elles ont fait le bonheur des uns, ces invitations, envoyées récemment, ont suscité beaucoup d'incrédulité de la part des candidats laissés pour compte. Citation « J'ai littéralement pleuré de joie ». Fin de citation confie Sarah Milan, qui a fait partie des élus. Diplômée en enseignement, cette Belge d'origine, arrivée ici il y a 4 ans, a fait une maîtrise en éducation au Québec et travaille à Sherbrooke comme orthopédagogue. Elle a terminé sa déclaration d'intérêt pour le programme de sélection des travailleurs qualifiés, un programme qui fonctionne par pointage en fonction de certains critères qui n'ont pas encore été révélés jusqu'ici. Sarah Milan ne se dit pas surprise d'avoir été choisie. Citation « J'ai un métier dans un secteur en pénurie », dit celle qui a obtenu un pointage de 852. Tous n'ont pas eu cette chance. Plusieurs qui s'attendaient à être sélectionnés nagent dans la déception, a constaté Le Devoir. Les commentaires, surtout des questions, fusaient de toutes parts sur les groupes de discussion consacrés à ce sujet sur les réseaux sociaux. Qui a été invité? Avec quel pointage? Les gens qui ont été invités, vous avez déposé quand? Déçu de ne pas avoir reçu l'invitation, Mohamed Slama ne voit pas pour sa part, citation, aucune logique, fin de citation, dans cette sélection. Arrivé en juillet 2023, ce taulier professionnel de Victoriaville dit ne pas avoir été choisi avec un pointage de 622, contrairement à son ami soudeur, arrivé en même temps que lui, qui avait un score moindre de 570. Citation, « Le programme n'est pas équitable envers les candidats », déplore-t-il, fin de citation, en ayant l'impression que les invitations se font de façon aléatoire. Citation, « Il n'y a rien de crédible, tout est croche, je perds confiance », fin de citation. Beaucoup de demandes, peu d'élus. Jusqu'ici, quelques 1000 invitations avaient été envoyées depuis la mi-juillet 2025. C'est maintenant 1870 nouvelles personnes qui ont été invitées à postuler sur 78 963 déclarations d'intérêt actives, selon le ministère de l'Immigration. Il va y en avoir d'autres, a assuré le ministre Jean-François Roberge en promettant des vagues d'invitations qui se feront en fonction des besoins de main-d'œuvre. Au bout du compte, il y aura annuellement 29 000 « invités » entre guillemets du programme de sélection des travailleurs qualifiés dans un plan d'immigration comptant 45 000 immigrants permanents. Parmi les 1870 invités, 799 exercent une profession dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la petite enfance, de la construction et du génie. 657 proviennent du secteur manufacturier en région, 402 détiennent un diplôme du Québec et 12 se qualifient dans le volet « talent d'exception ». Le ministre Roberge y voit quelque chose de très rassurant pour les laissés pour compte du programme d'expérience québécoise, qui ne peuvent plus compter sur cette voie de passage. Citation. 48% des personnes sélectionnées ont un diplôme du Québec. C'est quand même 1 sur 2, s'est-il réjoui. Donc, aux gens qui craignaient que le programme de sélection des travailleurs qualifiés n'allait pas autant valoriser les diplômes du Québec, je pense qu'on voit très bien l'orientation. Fin de citation. Les personnes sélectionnées devront toutefois fournir tous les documents nécessaires à l'obtention du certificat de sélection du Québec, ce qui n'est pas une mince tâche. Ils se joindront alors aux 142 000 titulaires de certificats déjà en attente. De la poudre aux yeux. Les députés de l'opposition demeurent sceptiques. Pour le député de Québec solidaire, Guillaume Tichaud-Rivard, cette voie unique est déjà un échec. Citation des travailleuses et des travailleurs essentiels, infirmières, médecins, enseignants, etc., parfaitement francophones et installés ici depuis des années, n'ont même pas reçu d'invitation. La solution, entre guillemets, du ministre n'est que de la poudre aux yeux, a-t-il dit, fin de citation, en exigeant une disposition de droits acquis pour les personnes qui misaient sur le programme d'expérience québécoise. Le député et porte-parole libéral en immigration, André A. Morin, plaide aussi pour plus de justice envers ces gens qui sont venus ici en comptant sur le programme d'expérience québécoise. Le programme de sélection des travailleurs qualifiés ne leur offre aucune garantie, déplore-t-il. Citation, 1870 invitations, c'est bien beau. Mais il y en a combien pour qui ça ne fonctionnera pas? Combien vont être oubliés et combien vont repartir chez eux? Fin de citation. C'était les invitations au programme de sélection des travailleurs qualifiés ne font pas que des heureux, un texte de Lisa Marie Gervais, paru le 6 décembre 2025 dans Le Devoir.
C'est la petite école de l'itinérance. Un texte d'Ariane Lacourcière, publié le 9 décembre 2025 dans La Presse. Depuis son ouverture en décembre 2024, le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Sainte-Thérèse a enregistré plusieurs fugues. Hébergé en centre de réadaptation jeunesse depuis près d'un an à Sainte-Thérèse, le fils de 17 ans de Mélanie multiplie les fugues. Pendant ses nuits à l'extérieur, le jeune homme flâne dans des parcs, erre de dépanneur en dépanneur ou dort près de guichets automatiques. C'est la petite école de l'itinérance, déplore sa mère. Elle dénonce la faiblesse des mesures prises par le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, CRJDA, pour mettre un terme aux échappées de son enfant et lui apporter toute l'aide dont il a besoin. Il est sous la protection de la jeunesse, mais on ne le protège pas sous prétexte de respecter ses droits et libertés, dénonce Mélanie. Elle souligne que les gouvernements martèlent sur toutes les tribunes qu'il faut agir pour endiguer la crise de l'itinérance. On parle de construire plus de logements, mais on ne pense jamais à s'attaquer à la source du problème, dit-elle. Or, depuis 5 ans, les fugues sont en constante augmentation dans les CRJDA, selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S. Et la tendance se poursuit en 2025-2026. J'ai juste les données pour la moitié de l'année, mais je vois que si la tendance se maintient, on va dépasser légèrement l'année dernière, confirme la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill. Environ 75 % des jeunes fugueurs reviennent en CRJDA dans les 24 premières heures. Ce n'est pas pour eux que je m'inquiète. C'est plus pour les enfants qui se mettent en danger, affirme Mme Hill. Des données obtenues par la presse, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, montrent que les fugues sont en forte hausse dans plusieurs régions, dont la Naudière, surtout au campus de Joliette, où 155 cas ont été recensés en 2025. Et l'année n'est pas encore terminée. Le CI3S de Lanaudière explique la situation, notamment par la présence de jeunes avec une dynamique comportementale associée à la fugue. Plusieurs mesures ont été mises en place pour corriger la situation, dont des plans d'intervention individualisés. Pour les 6 premiers mois de l'année, le CI3S de Chaudière-Appalaches a, quant à lui, enregistré 437 fugues contre 309 l'an passé. La relationniste du CI3S, Dominique Lessard, affirme que cette hausse s'explique notamment par un phénomène d'effet de groupe, particulièrement durant la période estivale. Certains fugueurs répétitifs font aussi augmenter les statistiques. Au CI3S de l'Outaouais, le nombre de fugues en CRJDA est en augmentation depuis 2020, entre autres à cause de la hausse progressive du nombre de jeunes hébergés, indique l'établissement. Dans les unités occupées à plus de 100%, les intervenants ont moins de temps pour des approches personnalisées avec chacun des jeunes, ajoute le CI3S de l'Outaouais. Une adolescence difficile. Adopté en bas âge d'un pays d'Amérique du Sud, le fils de Mélanie, Luca, a connu un début de vie difficile. Il a fait plusieurs familles d'accueil avant son arrivée ici, dit sa mère. À 4 ans, Luca ne parlait pas. Il ne savait pas manger, ni courir. Malgré un trouble de l'attachement, une légère déficience intellectuelle et un trouble de l'opposition, l'enfance de Luca au Québec s'est déroulée plutôt normalement, dit Mélanie. Celle-ci nous parle d'un enfant charmant, débrouillard et qui a un sens de l'orientation hors du commun. Mais à l'adolescence, tout bascule. Luca ne respecte plus du tout l'autorité. À la maison, la situation devient tendue. Il fait parfois des crises d'une violence telle que ses parents ont peur. Au bout du rouleau, Mélanie se résigne à confier son fils au CRJDA de Sainte-Thérèse en septembre 2024. À partir de ce moment, on a mis le doigt dans l'engrenage, affirme-t-elle. Au départ, Luca ne fugue pas. Ça a commencé au printemps passé, raconte Mélanie. Son fils a alors 16 ans. Ouvert en décembre 2024, le CRJDA de Sainte-Thérèse est l'un des rares qui ont été construits à neuf dans la province. Mais depuis l'ouverture, les fugues s'y multiplient. On s'y attendait, déclare la directrice de la protection de la jeunesse des Laurentides, Marie-Noëlle Granger. Notamment parce que le centre est en zone urbaine et qu'il ne compte que des unités ouvertes. Les enfants peuvent sortir s'ils le demandent. S'ils n'ont pas de mesures d'empêchement, affirme Mme Granger, qui note que dans la quarantaine de fugues cette année, plusieurs sont liés à un noyau dur. Les premières fugues de Luca au printemps ont été de courte durée, mais au fil des semaines, elles se sont prolongées et multipliées. Il se développe une certaine expertise là-dedans. Il devient meilleur. Les fugues sont de plus en plus longues, jusqu'à la première nuit entière en juillet, relate Mélanie. Durant ces nuits, Luca va parfois chez des amis. Sinon, au Tim Hortons, dans des dépanneurs ou près de guichets automatiques. Il apprend à survivre dans la rue, affirme sa mère. Rencontré le 17 novembre, Mélanie affirme que son fils a fugué à 3 reprises dans les 7 derniers jours. Dans la semaine précédente, il avait fugué à 4 reprises. Chaque fois, les parents vivent un stress énorme. Je dors peu ou pas quand il fugue. » Mélanie, à propos de son fils Lucas. Quand Mélanie lui demande pourquoi il fugue, Lucas répond qu'il n'est plus capable du centre jeunesse et des règles. Elle déplore qu'à chaque fugue, son fils se mette en danger, mais rien n'est fait pour l'en empêcher. Respecter les droits et libertés. Madame Granger convient que les parents peuvent avoir l'impression que tout est permis en CRJDA. Mais elle explique qu'il est primordial de respecter les droits et libertés des jeunes. Dans certains cas, des mesures d'empêchement de fugue peuvent être imposées. Mais pour ce faire, l'adolescent doit se mettre en danger, comme se diriger vers un réseau de proxénètes, où il doit représenter un danger pour la collectivité. Seulement 3 des 90 jeunes hébergés au CRJDA de Sainte-Thérèse font actuellement l'objet de telles mesures. Lucas n'en fait actuellement pas partie. Il consomme quand il fugue. Il manque de jugement. Il peut même voler. Ce n'est pas assez pour établir qu'il se met en danger. Mélanie, à propos de son fils Lucas. Elle estime que les critères pour imposer ou non des mesures d'empêchement de fugue sont flous et fluctuants. Madame Granger explique que garder de force les enfants dans les CRJDA peut avoir un impact encore plus important sur eux que de les laisser fuguer. Leslie Hill est consciente que les parents s'attendent à la sécurité maximale en CRJDA. Mais honnêtement, enfermer, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je comprends que ça a l'air plus sécuritaire, mais quand ils sortent de là, ces jeunes nous disent « Vous avez détruit ma vie ». D'ici quelques mois, Lucas sera majeur. Sa mère craint beaucoup ce qui s'en vient. Quand elle lui demande ce qu'il veut faire après son passage au centre jeunesse, Lucas répond « Survivre ». Mon mari et moi, on est restés sidérés, dit-elle. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Ça vaudrait la peine d'essayer avant qu'il ne se rende là. C'est la petite école de l'itinérance. Un texte d'Ariane Lacourcière, publié le 9 décembre 2025 dans La Presse.
Explosion des demandes d'aide chez tel jeune. Un texte de Jessica Nadeau paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. En 2024, à pareille date, tel jeune sonnait l'alarme sur l'augmentation marquée de la détresse chez les jeunes. En 2025, c'est encore pire, se désespère l'organisme qui parle d'une explosion des demandes d'aide de 20% en lien notamment avec une augmentation de l'intimidation à l'école. Oui, il y a une augmentation de la demande d'aide, mais il y a aussi une augmentation de la détresse, et c'est ça qui est préoccupant, affirme la directrice générale de tel jeune, Annie Papagiorgiou, en entrevue au Devoir. Les demandes d'aide sont de plus en plus complexes, révélant une détresse multifactorielle, explique Madame Papagiorgiou. Les problèmes liés à la santé mentale, dépression, stress, anxiété de performance, faible estime de soi, atteignent aujourd'hui un niveau sans précédent, représentant 50% des quelque 50 000 demandes reçues, contre 40% en 2024. La détresse des jeunes est telle qu'une intervention sur 5 nécessite désormais une évaluation du risque suicidaire. Cette détresse accrue se manifeste aussi chez les parents qui se sentent démunis et impuissants, constate l'organisme qui a reçu 10 000 demandes d'aide à la ligne tel jeune parent. Intimidation à l'école. La détérioration de l'état psychologique des jeunes est liée notamment à l'augmentation de la violence et de l'intimidation à l'école, constate la directrice générale de tel jeune. la violence fait de plus en plus partie des thèmes abordés par les adolescents qui nous contactent. Mais l'intimidation à l'école est plus grande. On a vu une grande augmentation des cas. Les jeunes se font intimider par leurs pairs à l'école en raison d'une différence de genre, d'une neurodivergence ou de leur apparence. Les jeunes sont touchés dans leur intégrité, dans ce qu'ils sont, dans leur besoin de validation, déplore Madame Papagiorgiou. Ce n'est pas d'hier que l'on parle d'intimidation dans les écoles, mais aujourd'hui, le problème prend de nouvelles proportions, selon elle. Ça fait longtemps qu'on le voit, qu'on l'entend, mais là, ce que les jeunes nous rapportent, c'est que bien souvent, ils ne se sentent plus en sécurité dans leur milieu quand ils sont intimidés. Donc, c'est ce qui amène une plus grande détresse. Cette détresse se traduit notamment par une grande anxiété liée à la rentrée scolaire qui s'est manifestée beaucoup plus tôt cette année, constate la directrice générale. Habituellement, c'est tranquille l'été. L'effet du retour à l'école se fait sentir plus au mois d'août. Mais en 2025, dès juillet, on a eu vraiment beaucoup de demandes de contact. Dans un mémoire présenté à Québec en 2024 dans le cadre des consultations sur l'élaboration du plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation, tel jeune indiquait déjà que le nombre de demandes d'aide pour des raisons liées à l'intimidation à l'école était en forte croissance. L'organisme identifiait plusieurs freins qui empêchent les jeunes de dénoncer ces situations, et ce, malgré l'obligation de toutes les écoles d'avoir un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Les jeunes nomment qu'il n'est pas simple d'identifier et de dénoncer l'intimidation, écrivait l'organisme. Ils mentionnent que les mécanismes d'intervention ne sont pas toujours efficients ou confidentiels, ce qui ne permet pas de mettre les jeunes en confiance. C'était « Explosion des demandes d'aide chez tel jeune », un texte de Jessica Nadeau paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.
Apprivoiser le sommeil après 60 ans. Un texte commandité paru le 15 septembre 2025 dans La Presse. Une étude rapporte que chaque décennie après l'âge adulte, la durée du sommeil diminue en moyenne d'une dizaine de minutes, un déclin qui tend à se stabiliser vers la soixantaine. Le corps humain conserve les mêmes besoins de repos, soit 7 à 8 heures par nuit, mais éprouve plus de difficultés à les combler. Voici ce qu'il faut savoir sur ces changements et comment les atténuer, une habitude à la fois. Des changements naturels. L'horloge biologique recule. Les rythmes circadiens régularisent divers signaux qui influencent l'éveil, la faim, le sommeil et d'autres processus physiologiques. Dans la soixantaine, il est fréquent que ces cycles de 24 heures soient devancés. Les gens ressentent plus de fatigue en fin d'après-midi, se couchent plus tôt en soirée et se lèvent aux petites heures. Une exposition insuffisante à la lumière naturelle, par exemple chez les personnes ayant des problèmes de mobilité qui sortent moins souvent, perturbe également cet horaire interne. L'architecture du sommeil évolue. Avec les années, moins de temps est passé dans les phases du sommeil profond, qui est le plus réparateur, et du sommeil paradoxal, qui est essentiel à la mémoire et à la régulation des émotions. Le sommeil léger occupe quant à lui une plus grande proportion de la nuit. Il en résulte un repos fragmenté par des éveils fréquents et une certaine fatigue le matin venu. Les envies nocturnes sont plus courantes. La capacité et le contrôle de la vessie tendent à diminuer avec l'âge, ce qui amène les gens à devoir uriner plus fréquemment, y compris en pleine nuit. Plus de 60 % des personnes de 60 ans et plus interrompent leur sommeil au moins une fois par nuit pour se soulager. Il peut être difficile de se rendormir après l'aller-retour aux toilettes, surtout s'il faut emprunter les escaliers ou s'exposer à l'éclairage. D'autres problèmes de santé affectent souvent le sommeil. la douleur chronique et de nombreuses maladies deviennent beaucoup plus courantes avec l'âge, comme les problèmes de dos, l'arthrose, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Voilà autant de sources d'inconfort et de distraction qui peuvent perturber un repos déjà fragile. Les effets secondaires de certains médicaments visant à gérer ces mêmes problèmes nuisent aussi au sommeil. Bonnes habitudes pour mieux dormir. Respectez un horaire de sommeil constant. Aller au lit et vous lever à la même heure tous les jours aide à régulariser votre horloge biologique. Dans la mesure du possible, évitez de déroger de votre horaire habituel plus d'une nuit par semaine. Pratiquez de l'activité physique régulière. Bouger aide à s'endormir plus rapidement et favorise le sommeil profond. Visez 30 minutes d'activité sportive la plupart des jours, de préférence le matin ou l'après-midi. Surveillez votre consommation de certaines substances. Le tabac et la caféine stimulent le système nerveux et nuisent à l'endormissement. L'alcool, bien que sédatif, perturbe les cycles de sommeil plus tard durant la nuit. Faites une sieste en début d'après-midi. Une brève pause de 20 à 30 minutes aide à refaire le plein d'énergie après une nuit difficile. Privilégiez l'heure du dîner ou le début de l'après-midi pour ressentir une fatigue suffisante en soirée au moment d'aller au lit. Développez un rituel de fin de soirée. Une routine de petits gestes familiers dans l'heure précédant le coucher, comme vous brosser les dents, tamiser les lumières et lire ou écouter de la musique, invite votre cerveau à se détendre, lui signalant que la journée se termine. Évitez les écrans pendant cette période. Mangez une collation légère. Différentes nourritures favorisent l'endormissement. Les aliments riches en protéines et en glucides complexes, comme une tartine au beurre d'arachide ou un bol de céréales, apaisent la faim et régularisent le glucose. Un breuvage chaud, comme une tisane apaisante ou du lait chaud, est propice à la détente et aurait des effets bénéfiques sur le sommeil. Le jus de cerise acidulée contient pour sa part de la mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. Des études suggèrent qu'il pourrait améliorer légèrement la durée et la qualité du repos. Lâchez prise. L'angoisse liée au sommeil entretient souvent un cercle vicieux. Plus on s'inquiète de ne pas dormir, plus l'endormissement devient difficile. Pratiquez la méditation ou concentrez-vous sur votre respiration pour vous détendre et accueillir le repos naturellement. C'était « Apprivoiser le sommeil après 60 ans », un texte commandité paru le 15 septembre 2025 dans La Presse.